Bon, mais c'est heureux que le message ait été préparé par la grâce de Dieu avant. Et merci Seigneur. Donc, ce matin, merci de votre compréhension. On va continuer à parler de l'importance de la prière. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, et je pense que c'est enregistré. Merci à Stéphane. Et on a regardé ensemble combien il est important de prier. Merci. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a regardé déjà 7-8 points. Il est important de prier tout d'abord parce que le diable existe. Ensuite, on a souligné qu'il est important de prier parce que justement, le manque de prière est souvent la cause secrète de lacunes dans notre expérience de vie avec le Seigneur. Sans parler peut-être même notre expérience au travail, en famille, dans nos foyers. La négligence de la prière. Ensuite, on a vu que la prière est importante parce que les apôtres se sont consacrés essentiellement au ministère de la prière et de la parole, et l'élection des diacres, n'est-ce pas, en acte 6, avait pour but de soulager les apôtres afin qu'ils puissent réellement se donner au ministère de la parole et de la prière. On a vu en quatrième point que la prière était en fait le ministère le plus important de Jésus, placé en toute première place lorsqu'il était sur terre. Jésus passait toute une nuit en prière, par exemple, avant de faire des grandes décisions comme le choix des apôtres, mais aussi après des grands événements, il priait encore toute une nuit. Et il est évident que lorsqu'on étudie la vie de Jésus, elle est imprégnée de la vie, d'une vie de prière profonde. Aussi, on a vu que la prière est importante parce qu'en fait, le ministère le plus important de Jésus-Christ maintenant dans les cieux, c'est d'intercéder pour nous, ses enfants. Il est celui qui est notre intercesseur auprès, et les propositions ici grecques, c'est face à face avec Dieu le Père. Il intercède et il se place entre le diable, l'accusateur des frères, nous dit l'Apocalypse, et Dieu le Père. Et c'est ainsi que Jésus est notre avocat, le paraclète, celui qui plaide en notre faveur. On a vu aussi que la prière est le moyen établi par Dieu pour nous permettre d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans tous nos besoins. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes tellement faibles, avec des besoins particuliers, et nous devons apprendre à prier. Et Thoré a dit, nous ne connaissons pour la plupart que de petits ruisseaux de miséricorde et de grâce, tandis que nous pourrions en connaître des fleuves débordants. Le manque de prière et souvent cette négligence fait que nous n'avons pas recours à Dieu pour obtenir miséricorde et grâce, et ce dans tous les milieux, les domaines de notre vie. Aussi, on a regardé la dernière fois que la prière est importante parce qu'elle est faite au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une prière magique, c'est au nom de sa présence et du Sauveur bien-aimé qui nous a réconciliés avec Dieu le Père, parce que nous avons un accès auprès de Dieu le Père. Nous pouvons prendre le temps de nous adresser à Dieu parce que Dieu dit qu'il a donné une porte ouverte au travers de Jésus-Christ, un accès qui nous est devenu favorable. En fait, j'aimerais, pour continuer les autres points que nous allons voir ce matin, par la grâce de Dieu, relire le texte sur lequel nous nous sommes appuyés jusqu'à maintenant pour montrer l'importance de la prière. En Éphésiens, chapitre 6, verset 18, il est écrit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Soulignez avec moi les expressions « Faites en tout temps, toutes sortes de prières et de supplications. » Veillez avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Thoré appelle ça la prière persévérante, constante, éveillée et appliquée et victorieuse. Voilà. Nous allons regarder ce matin, en Philippiens 4, versets 6 et 7, un autre aspect de l'importance de la prière. Philippiens 4, versets 6 à 7. Oh, c'est un texte bien connu. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien ». Parfois, le chrétien s'inquiète qui s'inquiète, c'est vrai. Mais on s'inquiète souvent pour rien. « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ceux qui connaissent la paix profonde de Dieu sont toujours des hommes et des femmes de prière qui prient constamment. Et la paix de Dieu, qui est un don de Dieu, leur est donnée, et c'est une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Dans l'agitation de ce monde, vaut mieux peut-être prendre une nuit de prière que d'ensuite avoir des nuits qui se succèdent d'insomnie, comme a dit un prédicateur. Oui, nous avons besoin d'apprendre à nous confier en Dieu. Je crois que je vous ai déjà raconté cette anecdote, excusez-moi, mais il me semble qu'elle illustre bien cette idée du fardeau que nous portons parfois, ou l'inquiétude que nous avons pour rien. Un jour, j'étais à Paris en voyage, et j'ai vu une dame qui portait une valise assez lourde, une personne âgée, et je m'attendais à ce qu'on puisse l'aider, etc. Elle monte dans l'ascenseur, et qu'est-ce que je vois, cette dame toujours en train, au travers de l'ascenseur qui monte, les étages, les uns après les autres, en train de porter sa valise, un peu courbée comme ça. Elle était crispée à sa valise, qui semblait lourde. Je lui dis, mais ça c'est une belle illustration devant Dieu pour nous. Nous portons nos fardeaux et au moment où on devrait les laisser au Seigneur, on continue de les porter alors que le Seigneur est là pour qu'on vienne à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Savez-vous quoi que, je ne sais pas si c'est vrai aussi dans votre vie, j'ai remarqué que je m'inquiète souvent, mais vraiment pour rien. Et c'est à partir du moment où je prends le temps. C'est pour ça que la prière est importante, de mettre le fardeau, le souci, l'inquiétude au pied du Seigneur, d'être envahi par sa paix qui dépasse toute intelligence et donc qui, quelque part, dépasse les circonstances de notre vie. Nous avons tous des fardeaux, nous avons tous des inquiétudes, non? Non? Ah, il y a quelques personnes honnêtes. Oui, nous avons tous des difficultés. Vous avez des difficultés ce matin? Mais avez-vous pensé à les remettre au Seigneur? C'est toute une différence de vivre avec la valise alors que l'ascenseur est là, qu'on pourrait juste la poser, ou de dire « Seigneur, prends ce fardeau ». Mais quand on prie, nous devons vraiment apprendre à lui donner le fardeau et à ne pas le reprendre. Le problème que nous avons, nous allons au pied de la croix. Peut-être que nous prions, mais nous n'avons pas encore assez de foi. Nous n'avons pas pénétré encore la profondeur du cœur de Dieu qui nous donne la paix et qui prend notre fardeau réellement. Parce que des fois, nous quittons la croix et ce que nous avons déposé en partant, en repartant, nous le prenons à nouveau avec nous. C'est parce que nous manquons de foi. Il semble que quelque chose comme plus de 90%, en tout cas, des inquiétudes humaines ne se réalisent jamais. Donc nous, les êtres humains, nous nous inquiétons pour beaucoup de choses qui n'arrivent jamais. Et c'est sûr qu'il y a un pourcentage d'inquiétudes réelles et qu'on doit apprendre, n'est-ce pas, à mettre devant le Seigneur. Je vous ai raconté cette famille du Québec, n'est-ce pas, avec qui je suis en contact, qui avait des problèmes, mais partout. De santé, de travail, l'éducation des enfants, enfin, l'avenir des enfants. Et en quelques années, à cause de la prière, tout a été transformé, accompli. La dame guérit, le mari a trouvé un autre travail. C'est incroyable la puissance de la prière. Mais pour cela, il faut prier. Nous négligeons la prière, nous négligeons de passer du temps avec le Seigneur, de remettre nos fardeaux. Même avant d'aller voir le docteur, prenons le temps de prier. Et ainsi de suite. Il y a tellement de domaines dans notre vie où nous nous surchargeons parce que nous n'avons pas la foi simple d'un enfant pourtant qui appartient à Dieu. Un père qui veut prendre soin de nous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Je pense que notre premier besoin, on va dire cela, parce qu'on pourrait développer cela, je pense, longtemps, mais notre premier besoin, c'est le besoin de sagesse. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter, et elle lui sera donnée. C'est merveilleux, quelle belle promesse. Il ne faut pas douter. Dieu est prêt à nous donner de la sagesse, et nous avons tellement besoin de la sagesse de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de commencer nos journées dans la sagesse de Dieu. Il y a toute une différence de commencer la journée avec Dieu, de lui avoir remis les inquiétudes, peut-être la journée éventuelle et réelle, en Christ, et de voir finalement que le Seigneur a plani les sentiers, etc. Nous sommes venus ici ce matin avec un peu d'inquiétude sur la route. Vous savez ce que le Seigneur a fait? Il a envoyé un ange devant nous. Ah, c'est beau les anges, hein? Oui, le chasse-neige, juste devant nous, tout le temps. Incroyable, jusqu'au bout de l'avenue Albert Bedous. Ma femme me dit, regarde le Seigneur ce qu'il fait pour nous, avec le sel qui répandait, il chassait la neige. Et nous, on le suivait, on était juste derrière, depuis un long bon moment, sur la rocade. Et on disait, mais jusqu'où il va? Il va aller tout droit, il va tourner. Non, il tourne à droite, le Polonia. Après, il tourne encore pour Ranga. Et puis, il tourne là. Je dis, mais voilà, merci Seigneur. Alors, des fois, le Seigneur, c'est une anecdote, hein, mais le Seigneur a des plans et des choses qui prépare lui-même. Parce que c'est un Dieu d'amour. Nous devons croire que Dieu est un Dieu d'amour et qui planifie les choses à l'avance. Il reste souverain. Nous avons parlé un petit peu hier soir, puis nous avons entendu vraiment le miracle de la guérison de notre frère Louis Pelzer, cette puissance de Dieu qui est merveilleuse un peu, qui l'a rendu serviteur alors qu'il était tout handicapé. Et nous nous inquiétons et nous ne croyons pas que Dieu peut faire tellement de choses dans nos vies et au travers de nous. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi et elle lui sera donnée. Quelle belle promesse. Le neuvième point, j'en ai 11. Le neuvième point, c'est la méthode établie par Dieu pour que nous recevions le Saint-Esprit. Je veux dire, mais est-ce qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit lorsqu'on s'est converti? Oui, mais il y a une circonstance particulière que le Seigneur nous laisse, par exemple, en Luc chapitre 11 et verset 13. Luc chapitre 11 et verset 13. Alors, il faut lire dans le contexte, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Parabole des trois amis. Je pense qu'il faut commencer dans le contexte ici. Verset 5, Luc chapitre 11, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lever pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, tiens, c'est pas la prière, ça? Et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quelqu'un est dans le besoin, et quelqu'un n'a pas à donner. Mais on peut chercher la volonté de Dieu pour savoir celui qui va donner. C'est la même chose dans notre vie. Il est écrit « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez ». Entre parenthèses, je pense qu'ici, il s'agit d'une application aussi dans le domaine de l'évangélisation, parce que bien souvent, face à un besoin, qui est vraiment parfois un besoin qui nous importune, nous n'avons pas la réponse matérielle ou même spirituelle. Mais Dieu a une réponse. Et nous pouvons demander à Dieu de nous donner ce qui convient aux besoins de la personne, parce que nous ne l'avons pas nous-mêmes. Le sage s'empare des âmes, et nous avons besoin d'une sagesse particulière pour savoir combler le besoin, notamment spirituel, de quelqu'un qui se présente à nous et qui peut-être nous importune, parce qu'on est dérangé ou on est souvent incapable de répondre aux besoins. Et le texte continue, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent, au lieu d'un un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion, si donc méchant comme vous l'êtes ?» C'est Jésus qui parle là. « Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Bien sûr, il s'agit ici, notamment lors de la conversion, de demander le Saint-Esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit une fois convertis, mais nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Je ne parle pas ici d'un baptême du Saint-Esprit qui serait une nouvelle expérience extraordinaire. Ce serait une confusion théologique parce que le baptême du Saint-Esprit a lieu une fois pour toutes. En 1 Corinthiens 12, 13, la Bible dit « Vous avez été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps ». Et le temps ici dans le grec, c'est l'idée d'une expérience passée, ponctuelle, qui a des conséquences dans le présent, mais qui est ponctuelle. On n'a pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit une fois qu'on est converti, mais on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, de vivre de la puissance du Saint-Esprit. Et nous pouvons demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous remplir du Saint-Esprit nous-mêmes. Mais nous pouvons le matin demander à Dieu, « Seigneur, remplis-moi de ton Esprit. » À combien plus forte raison, méchant comme vous l'êtes, votre Père Céleste vous donne-t-il le Saint-Esprit. Je vous donne un exemple, une seule application ici. Ça se trouve de mémoire en Actes, chapitre 4, verset 31. Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié dans un contexte d'opposition et de persécution, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent quoi? Pourtant, c'est déjà après la Pentecôte. Tous remplis du Saint-Esprit. Il n'est pas écrit baptisé du Saint-Esprit, il est écrit rempli du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Oui, face au monde perdu, pour annoncer la parole de Dieu avec assurance, j'ai besoin de toute la puissance du Saint-Esprit. Si je ne prie pas, je n'aurai pas cette puissance. Si je ne la demande pas, je n'aurai pas cette puissance. Dans l'histoire de Moody, le grand évangéliste qui a mené des centaines de milliers, je pense, de gens au Seigneur, il y a deux femmes qui sont allées le voir un jour, qui lui ont dit, « Oui, tu prêches, c'est bien. » Mais tu prêches, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit encore, et tu ne prêches pas encore avec puissance. Il a compris qu'il avait besoin d'une autre expérience. Et ces deux femmes de prière ont prié jusqu'à ce que Moody soit revêtu de toute la puissance du Saint-Esprit. Et Moody a prêché, et des âmes par centaines sont venues au pied de la croix. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Humilions-nous, frères et sœurs, sous la puissante main de Dieu et convenons devant Dieu ensemble et en tant que personne devant Dieu aussi que nous ne pouvons rien faire. Mais la prière fait la différence. La prière est le ministère commun de tous les enfants de Dieu. Il y a bien des dons que Dieu ne donne pas à l'un ou à l'autre parce que Dieu veut être glorifié et il reste souverain dans la façon dont il répartit les dons dans l'Église et les talents. Mais il y a une chose qui est commun à tous les enfants de Dieu, qui est le ministère le plus important, avec celui de la parole de Dieu, certainement, comme disent les apôtres, c'est le ministère de la prière. Et nous sommes tous conviés à prier. Est-ce que nous sommes connus comme des hommes et des femmes de Dieu de prière? Combien de temps passons-nous devant Dieu, en train de prier, de supplier Dieu? Est-ce que nous sommes comme l'apôtre Paul qui priait sans cesse, jour et nuit? Est-ce que lorsque l'apôtre Paul dit prier sans cesse, est-ce que c'est quelque chose dans notre cœur qui est une priorité? Le monde a tellement besoin de nos prières, frères et sœurs. Si nous ne prions pas, qui va prier pour ce monde qui est en agonie, qui est en flamme, qui est perdu? Le dixième point que je voudrais souligner, c'est que la prière et le moyen établi par Christ pour que nos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès du manger du bois et par les soucis de la vie. Et c'est le Seigneur qui nous a donné cet enseignement. Et ça se trouve, si vous voulez bien tourner dans vos Bibles, en Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21 et à partir du verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Qu'est-ce qui est écrit ici? Veillez donc et priez en tout temps. C'est exactement ce que Paul disait en Éphésiens. Priez, veillez et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, certainement face à la persécution à venir, la grande tribulation. Mais nous devons apprendre à prier et à ne pas nous laisser envahir par les soucis de la vie. C'est vrai que nous avons beaucoup de choses qui peuvent nous appesantir, ou d'autres activités, pas simplement le manger, le boire, qui prennent la place de Dieu. Par exemple, la télévision et bien d'autres choses. Nous devons apprendre à prendre le temps de prier et de remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Et nous allons regarder maintenant le dernier point, c'est le 11e, si vous me permettez, divisé en sous-points. La dernière raison de l'importance de la prière, c'est en ce que la prière accomplit. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez et vous recevrez, frappez, l'on vous ouvrira. La prière, premièrement, favorise notre croissance spirituelle. Il n'y a rien de plus puissant que l'étude de la parole avec l'étude, avec la prière. Martin Luther disait, bien prier, c'est bien étudier. Bien étudier, c'est bien prier. Nous ne pouvons pas comprendre les Écritures si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Et pour cela, l'Écriture est comme une épée, n'est-ce pas, à double tranchant, Ancien et Nouveau Testament, il faut lire les deux, qui pénètre le cœur du croyant et qui révèle qui il est. Et ce n'est pas bien beau. Parce que cette épée pénètre jusqu'au plus profond et amène tout péché à la lumière de Christ. La lumière de la parole de Dieu pénètre profondément en nous. Et c'est pour ça que le psalmiste, à un moment donné, dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » La voie de l'éternité, c'est le chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus qu'on a accepté, mais maintenant que l'on suit. Et pour suivre la voie de Jésus, eh bien, nous devons apprendre à nous laisser dépouiller du péché. Et la prière est là pour nous révéler le péché. Parfois, nous nous inclinons devant Dieu. Une pensée, quelque chose vient. Et c'est exactement l'obstacle qui est entre nous et Dieu, parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas confessé devant Dieu et abandonné. Le péché est l'obstacle à la bénédiction de Dieu. Le péché est l'obstacle à l'exaucement de la prière. Et c'est dans la mesure où nous confessons nos péchés devant Dieu et nous nous repentons, nous nous humilions, que Dieu est là, pardonne, purifie et remplit. Si mon peuple s'humilie, sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7:14. Juste, ça me vient à l'esprit, mais il me semble que dans l'expression de David, après avoir connu l'adultère, n'est-ce pas, il a été visité par Nathan, le prophète. Voilà l'expression de la repentance de David. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, psaume 51, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » D'où l'inspiration, n'est-ce pas, de ce chant « Plus blanc que la neige » que nous avons chanté tout à l'heure. En plus, non seulement nous avons besoin de la prière pour comprendre les Écritures, pour comprendre la pensée de Dieu, pour se laisser sonder, confesser, abandonner le péché, se repentir, mais nous avons besoin de l'Esprit Saint pour avoir les yeux illuminés, pour comprendre qui est notre Seigneur. C'est une question spirituelle, ce n'est pas une question d'intelligence, d'émotion, de volonté. Le Saint-Esprit veut nous révéler en nos cœurs, au travers des Écritures, certes, qui est Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul a une façon de prier. Des fois, nous prions pour des frères et des sœurs en difficulté, que des choses changent. Mais peut-être devrions-nous apprendre, comme l'apôtre Paul, à prier pour que les yeux s'ouvrent et qu'ils comprennent qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit ceci, je vous le lis, afin que, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation de sa connaissance, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. L'apôtre Paul priait pour des croyants que leurs yeux soient éclairés. Pourquoi ? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, voir l'éternité. Par la prière, nous sommes conduits à voir le ciel. Et nous avons cette espérance divine que si nous devions partir, mais c'est de loin le meilleur, comme dit l'apôtre Paul. Nous voyons, nous entrevoyons déjà le ciel par nos yeux spirituels. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifester avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ. Nous avons besoin de prier pour contempler, pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la prière que Dieu se révèle, et dans les Écritures, bien sûr. Bien prier, bien étudier, bien prier. Deuxième point sur l'accomplissement de l'Écriture, c'est une source de puissance pour notre travail ministère au sein de l'Église. La prédication, l'enseignement, la relation d'aide, toutes les petites tâches. Je me souviens une fois, au Québec, une dame faisait le ménage à l'église. Et elle ne faisait que rouspéter, mais alors râler. Et à Québec, on a un mot encore plus fort, chialer. Parce qu'elle disait, mais les gens, ils rangent pas, les enfants font du... Justement, elle était là pour ranger, parce qu'il y avait eu beaucoup de petits-enfants, etc. Et je suis allé la voir, j'ai dit, écoutez, ma sœur, je crois que vous devriez arrêter. Parce que si vous faites ce ministère dans un tel état d'esprit, et que vous ne le faites pas avec joie, il n'y a aucune récompense, aucune joie dans ce que vous faites. Bien sûr que, vous savez, l'Église est imparfaite, hein, puis on est les premiers. Mais vous devriez le faire avec joie. Repentez-vous. J'ai dû lui dire ça. Parce que si vous travaillez la moindre tâche dans l'Église, et si ce n'est pas la joie du Seigneur qui est votre force, eh bien, ne faites rien. Mais maintenant, quand je dis ne faites rien, repentez-vous rapidement, hein, parce qu'on a besoin de vous. D'accord ? On a tous besoin du Saint-Esprit en abondance. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'aimerais vous donner l'illustration suivante. Trotman, le fondateur de Navigateur, était un camionneur, jeune, célibataire. Et tous les matins, il se levait de très bonne heure pour prier avec un de ses collègues, parce qu'il cherchait la face de Dieu pour savoir ce que Dieu pourrait faire et accomplir dans leur vie. Des camionneurs. Le camion aux États-Unis. Lui et son collègue sont levés encore plus tôt, parce que le camionneur se lève de bonne heure pour conduire, encore plus tôt, et ils ont fixé 2-3 mois devant le Seigneur pour supplier Dieu que Dieu les dirige. Et Dieu a imprimé dans leur cœur l'importance de faire des disciples, de prendre quelqu'un et d'en faire un disciple, un par un, ou deux par deux, et que cette chaîne allait se multiplier. Et les navigateurs, au travers de leur fondateur, et notamment de M. Trotman, a amené des centaines de milliers de personnes dans différents milieux, complètement différents. Les étudiants, les marins, etc. Les ouvriers dans les usines, incroyable. Parce qu'il a suffi qu'un homme, une fois, croit que Dieu peut lui donner la puissance d'amener quelqu'un au Seigneur et d'en faire un disciple qui lui-même, par cette puissance divine de la régénération, aura la capacité d'amener quelqu'un d'autre au Seigneur et ainsi de former notre disciple. Vous prenez un disciple, 2 disciples pendant 2 mois, en 8 sessions, qui forment même 2 autres disciples et ainsi de suite. En 10 mois, il y a 293 personnes qui sont formées pour gagner des âmes. Bien sûr, c'est une chaîne idéale, mais nous reconnaissons que nous n'avons même pas commencé. C'est ça le problème. Nous en parlons, nous le savons, mais nous ne commençons pas par le début. C'est de prendre quelqu'un, de l'amener au Seigneur et d'en faire un disciple. Et c'est ce que Jésus nous a demandé, aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous nous gargarisons de toutes sortes de problèmes, de programmes, etc. Mais le vrai problème, c'est d'être à genoux devant Dieu et de dire, Seigneur, donne-moi une âme. John Knox a dit un jour, Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. Savez-vous quoi? Dieu lui a donné tout un pays parce qu'il était enflammé pour Christ. Et c'est dans la prière que cela a commencé. Et la prière a amené le réveil en Écosse. Troisièmement, la prière est donc efficace pour la conversion des âmes. Dieu, dans l'Ancien Testament, déjà la vision qu'Israël est un peuple choisi pour être ses témoins. Dieu dit dans l'Ancien Testament à Israël, vous serez mes témoins. Est-ce qu'ils l'ont toujours été? Non. Est-ce que l'Église est toujours témoin dans le monde du salut de Jésus-Christ? Non. Pourtant, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oswald Smith, dans son livre « La passion des âmes » dit « Plus le phare est intense à sa source, plus les rayons portent au loin. Plus une église a à cœur le salut des âmes là où elle vit, plus elle aura à cœur de gagner le monde. On veut envoyer des missionnaires dans le monde, mais soi-même dans l'église locale, on n'a parfois même pas le fardeau d'amener une âme au Seigneur là où on vit, là où on travaille, ou au sein de sa famille. On ne voit pas peut-être quelqu'un qui n'est pas encore converti, mais qui est en route pour l'éternité sans Dieu, l'enfer. Imaginez que vous soyez dans la rue, vous voyez des enfants crier, une famille crier parce que leur immeuble est en feu, et vous regardez et dites oui, c'est grave, et vous ne faites rien. Mais c'est exactement notre attitude face à ce monde, frères et sœurs. La puissance de la prière. Il y avait un monsieur qui priait constamment dans un village pour un réveil, et Charles Finet est venu. Et en fait, il a prêché de tout son cœur sur Lot et Sodome. Et le village, il ne savait pas s'appeler Sodome. Les gens sont tombés à terre, tellement visités par la puissance de Dieu et convaincus de péché. Parce qu'il y avait un homme dans ce village qui avait prié jour et nuit qu'il y ait un réveil. Dieu cherche des sentinelles. Dieu cherche des hommes et des femmes de prière parce qu'il est important de prier. Combien de temps passons-nous dans la prière? Combien de temps passons-nous dans la prière? Vous savez pourquoi nous ne prions pas? Parce que nous sommes ou paresseux, ou peut-être attaqués par le diable qui ne veut surtout pas que l'on prie. Parce que nous ne croyons pas. À partir du moment où vous vous mettez à genoux et vous êtes en train de prier, vous croyez que Dieu est en train de vous exaucer, vous allez vraiment prier. C'est incroyable ce que Dieu fait. Et les quelques-uns, et je dis ça... Parce que c'est vrai, le mardi soir, qui prie, et vous qui priez à la semaine, certainement, c'est incroyable de voir toutes les choses que Dieu exauce. Et nous ne sommes même pas reconnaissants. On est comme, il y avait combien qui sont revenus dire merci à Jésus et lépreux. Nous oublions de remercier le Seigneur. Nous avons besoin de prier parce que la prière répare, restaure, unit là où le diable s'oppose, divise à l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Et la Bible dit, et c'est Paul qui dit, il dit ceci, pour terminer, en Éphésiens 6, 18, il dit « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. » Paul, nous plaignons parce que nous n'avons pas peut-être telle et telle chose pour évangéliser. Paul était dans les chaînes, mais son cœur était libre parce que sa vision de Dieu était telle qu'elle remplissait sa cellule. Von Brandt, qui est resté un pasteur qui s'est converti, qui était communiste en Roumanie, qui s'est converti, qui est resté 14 ans en prison. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit qu'en sortant de prison, la première chose qu'il craignait, c'est d'entrer dans le monde et perdre cette intimité de communion qu'il avait eue avec Jésus dans sa cellule. Tellement la prière l'avait transformé. Et Moïse, lorsqu'il est descendu de la montagne, n'est-ce pas, son visage rayonnait de la gloire de Dieu après avoir prié et jeûné 40 jours. La prière transforme. La prière, elle est importante en ce qu'elle accomplit. C'est notre dernier point. Parce qu'elle favorise notre croissance spirituelle, parce qu'elle est indispensable dans notre travail, notre ministère, notamment dans l'Église, en ce que aussi elle est efficace pour la conversion des âmes, en ce qu'elle est une bénédiction pour l'Église. Et vous savez que, bon, je l'ai déjà dit une fois, mais au moins une fois, un jour quelqu'un, Spurgeon était très connu comme un grand prédicateur, et un jour des gens ont visité son Église, ils arrivaient de très bonne heure, ils disaient voilà, écoutez, ils trouvent un homme dans l'assemblée là, et ils étaient relativement assez à l'avance, mais ils étaient seuls, ils ne comprenaient pas. Ils ont dit, tiens, le monsieur là, il a l'air gentil, on lui pose une question. Il dit, monsieur, oui, on vient pour la première fois à l'église et dire oui, oui, ben venez, je vais vous faire visiter la chaudière de l'église. Ah, la chaudière de l'église, ils ont pensé d'être le concierge. Bon, la chaudière de l'église. En fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'était Spurgeon lui-même qui se préparait à donner son message. Et puis, il a ouvert deux portes. Il y avait 300 personnes à genoux en train de prier. Les gens de la Corée du Sud, vous lisez un petit peu les réveils religieux dans le monde, les gens de la Corée du Sud ont prié des heures, des journées entières, le matin de très bonne heure, pour pas que la Corée du Nord les envahisse. Et ils ont connu un vrai réveil. Il y a vraiment un réveil en Corée du Sud aujourd'hui et qui se perpétue. Pourquoi ? Parce que le matin, ils commencent de bonne heure à prier à genoux. Et nous avons une réunion de prière. Et nous avons des occasions dans la journée de prier. Est-ce que nous les prenons ? Spurgeon disait, ne pas prier lorsqu'on a envie, c'est un péché. Et ne pas prier lorsqu'on n'en a pas envie, c'est dangereux de rester dans cette condition. Nous avons tous besoin d'apprendre à prier parce qu'il est nécessaire de prier et le réveil ne vient que par la prière. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, tout en cherchant ma face, je l'exaucerai du haut des cieux. Néhémie, Daniel, Esdras, tous les réveils religieux de l'Ancien Testament sont venus des hommes et des femmes qui ont cru à la parole de Dieu, qui se sont repentis devant Dieu et qui ont prié. Nous avons besoin, non pas pour nous-mêmes, non pas pour la croissance de notre Église et tout cela, c'est pas ça le but. Nous avons besoin de prier parce que Dieu est Dieu. Nous avons besoin de nous humilier et de chercher la face de Dieu. Prions, s'il vous plaît. Notre Père céleste, nous venons à toi. C'est bien le message comme cela, mais c'est tellement mieux de le mettre en pratique. Donne-nous des cœurs tendres pour intercéder. Je te prie, Père, de susciter dans notre assemblée des hommes et des femmes de prière qui se tiennent à la brèche pour ton œuvre, pour te glorifier ici à Toulouse, dans cette ville qui a tellement besoin de toi, qui est perdue. Seigneur Jésus, suscite en nous un vrai fardeau de la prière. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous ne prions pas alors que tu nous appelles à prier. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos péchés cachés que nous ne confessons pas, que nous ne nous abandonnons pas. Et nous te prions, Seigneur, dans ta bonté de nous parler afin qu'on puisse passer du temps dans la prière, te rechercher de tout notre cœur et en faire une priorité parce que notre vie de prière est le reflet de notre communion avec toi et de notre amour pour toi. Le temps que nous passons avec toi est la jauge et la sonde de notre vrai amour pour toi. Seigneur Jésus, te demandons grâce, te demandons pardon, te demandons de nous aider et de nous enseigner à prier. Enseigne-nous à prier, Jésus, disaient les disciples. Merci de nous avoir bénis ce matin, Père. Merci de nous avoir gardés. Merci de m'avoir aidé pour ce message ce matin. Merci de bénir notre frère Louis dimanche prochain et que nos cœurs soient attendris à prier, intercéder, puis à donner aussi pour le ministère du messager de la paix. Te prions ces choses dans le beau nom de Jésus. Amen.